Bonjour à tous. Donc, le lycée a l'honneur et le plaisir de recevoir M. Crémieux-Briac. Alors, qui est-il ? Eh bien, c'est une des voix de la résistance, une des voix de Londres, eh bien, puisqu'il a été un des animateurs de Radio Londres. Eh bien, il a travaillé avec le général de Gaulle. Il a fait partie de ceux qui ont su bien permettre à la France de retrouver son honneur et sa fidélité républicaine. Il a été aussi un combattant pendant la période de 1940, période qui n'est pas telle qu'on vous la présente, à savoir une période où le peuple français se serait bien déballonné devant l'envahisseur allemand. Pas du tout, au contraire, c'est une période où l'armée française a su résister. Si elle a perdu, c'est parce qu'une partie de ses élites et de ses chefs étaient incapables de prévoir bien la guerre moderne telle qu'elle était en 1940. C'est aussi un itinéraire individuel important, hein, puisque M. Crémieux-Briac a été prisonnier, bien, puis s'est retrouvé bien dans les camps soviétiques. Alors vous allez me dire, c'est quand même assez curieux. Sachez que l'URSS et l'Allemagne nazie avaient signé un pacte de non-agression à l'été 1939 et que l'URSS et l'Allemagne nazie s'étaient partagé la Pologne. Les hasards de votre itinéraire de prisonnier de guerre vous avaient emmené jusqu'en Silésie et après vous êtes retrouvé en quelque sorte prisonnier des Russes, on peut le dire comme cela. Puis, en 1941, vous vous êtes évadé et vous avez rejoint Londres, en particulier. Donc, c'est un itinéraire. Ce n'est pas qu'un seul témoin de cette période, mais c'est un acteur de la période. Donc, j'espère que vous poserez toutes les questions qu'il faudra pour que vous compreniez mieux, quand même, ce que fut cette Seconde Guerre mondiale et ce que fut la résistance, et en particulier la résistance extérieure à Londres.
M'assieds. Merci, cher monsieur, de cette présentation. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler. M'a-t-on demandé de ce qui a été mon itinéraire pendant la guerre, ce qui rejoint un peu vos programmes. J'ai la chance d'être un survivant et j'ai eu la chance d'être associé, témoin, un peu acteur de quantité d'événements qui étaient à l'époque notre quotidien et qui aujourd'hui sont de l'histoire refroidie, mais qui pour moi reste de la vie. Donc comment les choses se sont-elles passées pour moi et qu'est-ce que j'ai vu lycéen parisien, bon élève, dans une famille très politisée, pas engagée dans les partis politiques, mais par tradition familiale républicaine, de gauche, et avec la chance d'aller passer mes vacances en Allemagne pendant plusieurs années avant la guerre, donc c'est à partir de l'âge de 14 ans. C'est-à-dire à partir de 1931, ce qui est infiniment loin, de sorte que j'ai vu pendant mes vacances l'arrivée de l'ascension d'Hitler, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, son emprise progressive sur l'Allemagne. Ceci dans une famille allemande qui était social-démocrate, chez un instituteur qui me recevait chaque année et avec qui j'avais noué, et ses enfants avec qui j'ai noué amitié. Et j'ai vu donc s'implanter le régime nazi avec ce qu'il avait d'efficace dans la brutalité, c'est-à-dire la réduction du chômage, les autostrades, l'armement, et une brutalité policière effrayante, mais en même temps une espèce de fascination extraordinaire sur les jeunes, tels que tous mes camarades, tous mes amis allemands de mon âge, sauf ceux de la famille qui m'hébergeait, je les ai vus progressivement s'inscrire aux jeunesses hitlériennes. 1939, j'étais étudiant à la Sorbonne. Et à l'époque, les étudiants à la Sorbonne qui étaient volontaires pour cela pouvaient suivre pendant 2 ans des cours de préparation militaire tout en étant étudiants. Et s'ils étaient reçus au concours de la préparation militaire au terme de la 2e année, ils pouvaient faire leur service militaire comme élèves officiers, puis aspirants, c'est-à-dire quasiment sous-lieutenant. Et donc j'ai fait cette préparation militaire supérieure et j'ai passé le concours. Et je me suis trouvé mobilisé en septembre 1939, quand la guerre a éclaté, mobilisé au Mans. Je suis arrivé au Mans avec tous les élèves reçus au concours, tous ces étudiants reçus au concours de la préparation militaire supérieure. Et il faut rappeler que la France, depuis 1936, avait fait un effort d'armement industriel gigantesque pour rattraper l'Allemagne, avait construit des chars, et le nombre des chars était plus important que celui de l'Allemagne. Un effort si important qu'en 1939, les ouvriers étaient astreints à travailler de 60 à 72 heures par semaine pour soutenir l'effort de guerre. Cependant, en même temps que cet effort industriel, la pagaille intérieure et l'inorganisation étaient très grandes. Ma grande surprise quand nous sommes arrivés donc au Mans a été que je fus témoin de la manière dont on nous habilla. On nous fit passer le long d'un bâtiment de caserne. Et du premier étage, d'une fenêtre ouverte, tombaient des capotes bleu horizon délavées. D'une seconde fenêtre, des pantalons bleus et délavés. D'une troisième fenêtre, des vareuses. Et il y avait dans la cour un tas de bandes moltières, car on avait encore des bandes moltières. Et dans un autre coin de la cour, il y avait un tas de casques d'un mètre cinquante de haut. Des casques qui avaient beaucoup servi, parmi lesquels il fallait choisir à sa taille un casque. C'est-à-dire que cette France entrant en guerre mêlait d'une part un modernisme remarquable dans une partie de ses unités, de ses divisions, et d'autre part une espèce de pagaille singulière, avec une diversité des esprits et des comportements qui fit mon étonnement. Et je fus à l'école de Saint-Cyr comme élève officier de réserve. L'école de Saint-Cyr comportait d'une part les classes où étaient formés les futurs officiers de carrière à Cassoir, vous savez, et puis d'autre part les élèves officiers de réserve reçus donc au concours. Les uns et les autres ne se fréquentaient pas parce que les élèves officiers de réserve étaient plutôt réservés à l'égard des futurs officiers de carrière. Enfin, peu importe. Et l'enseignement était tout à fait remarquable. Cette école de Saint-Cyr, dont je m'étais méfié au départ, était une espèce de mélange de caserne et de collège anglais. Avec une discipline qui était dure, 400 grammes de viande par jour au repas, une piscine olympique et un encadrement de jeunes officiers de carrière très remarquable, gonflé, clair, sympathique. Et donc j'ai apprécié, j'ai trouvé que cet enseignement était de qualité. Et je dois dire que plus tard, avec du recul, j'ai pu apprécier combien cet enseignement était déphasé, c'est-à-dire que d'une guerre à l'autre, la guerre avait changé. Le moteur était entré dans les armées. avait transformé la notion de temps et la notion de vitesse. Les unités, un bon nombre d'unités étaient motorisées, les chars existaient. Et quand je me suis trouvé aux prises avec les Allemands, j'étais dans un bataillon, dans un régiment d'infanterie, qui était un régiment d'infanterie de série B, c'est-à-dire mal armé, mal encadré, sans appui d'artillerie. Et j'ai découvert face aux Allemands et sous la pluie des bombes allemandes et surtout sous la pluie hurlement de ces avions qu'on appelait alors des Stuka, c'est-à-dire les avions bombardiers en piqué, et j'ai cruellement découvert qu'on nous avait appris à Saint-Cyr ni qu'il existait des avions en piqué, ni qu'il existait des chars. On ne nous avait jamais montré un char. On ne nous avait jamais fait faire l'exercice avec un char. On nous avait appris à tirer avec des mitrailleuses sur des avions qui volaient trop haut pour que les balles de mitrailleuses puissent les atteindre. On nous avait même appris à tirer au fusil sur des avions. Donc, curieusement, dans cette armée française, il y avait deux armées dans une armée. Il y avait deux époques dans une époque. Il y avait une armée aussi moderne que celle des Allemands et fournie de chars autant et plus que les Allemands. Et une armée qui était l'armée de 1914, encadrée par des officiers vieillis et pour qui faire deux guerres mondiales était trop dans une vie. Donc vous savez que les unités d'actives, les unités modernes, les unités encadrées se sont battues avec acharnement, ont eu des pertes très lourdes. Cependant que dans le cadre d'une stratégie déplorable, les unités comme la mienne étaient complètement dépourvues face aux Allemands. Bref, après une retraite depuis le front du Nord-Est jusqu'à la Marne, je me suis retrouvé prisonnier et ce fut la longue marche des prisonniers, 200 km jusqu'à la Belgique, puis le train, puis 1 800 000 Français prisonniers, un accablement, une incompréhension totale de ce qui avait pu nous arriver, du pourquoi. Et donc je me retrouve dans un camp d'officiers prisonniers, merci, qui se trouvait près de la mer Baltique, en Poméranie, l'Oflag 2D, le plus important camp d'officiers français prisonniers en Allemagne, 6000 officiers répartis en trois camps, en trois blocs de 2000 chacun. Et un camp où l'écrasement mental, l'incompréhension devant cette espèce de catastrophe nationale incompréhensible, cet effondrement de tout ce qui était la France, pas seulement une défaite, mais un effondrement total de tout l'État, tout avait dégringolé, il ne restait rien de la France, sauf le maréchal Pétain qui apparaissait comme le sauveur et dont tout le monde se figurait que ce serait le premier résistant de France. Illusion, enfin il faut se représenter l'époque. Et je dois dire que j'ai très très mal supporté j'ai mal supporté le climat de ce camp de prisonniers, cet écrasement, cette résignation à l'écrasement. La conviction que la guerre était terminée, que l'Allemagne, que l'Europe serait allemande et qu'on allait rentrer dans les foyers rapidement. Mais une absence de réaction, sauf de quelques-uns, qui est un phénomène du moment, un phénomène d'époque, qui traduit bien ce qu'a été ce fantastique traumatisme de la défaite de 40. C'était pas cet aplatissement n'était pas le cas de tous, dans le camp, dans le bloc où j'étais, il y avait un certain capitaine Billotte, dont le père avait été un des grands généraux de 40, qui a fait une conférence expliquant sur la pêche, intitulée « La pêche en haute mer », où il expliqua à la fin du mois d'août 1940 qu'un débarquement de vive force en Angleterre était impossible. Et puis, dans le même camp, il y avait un lieutenant qui s'appelait De Boissieu, qui vivait, un Syrien, un jeune officier de carrière, qui vivait dans la mémoire et l'admiration des batailles de Napoléon, qui, à longueur de journée, avec un de ses camarades, revivait les batailles de Napoléon. Et lui qui avait décidé de s'évader. Enfin, pour vous dire la confusion des esprits dans ce traumatisme affreux, Boissieu dit un jour à un de ses camarades de promotion, jeune officier de carrière lui aussi, qui était un petit-fils du maréchal Foch, « Mon vieux, je vais m'évader. Tu viens avec moi. » Et son camarade lui répond, « Je peux pas, je prépare l'école de guerre. » C'est un mot absolument extraordinaire qui traduit cet effondrement de perspectives. Et donc, pour ma part, j'ai très mal supporté ce climat. Et autour du 1er octobre 1940, j'ai été transféré dans un camp de simples soldats, car le gouvernement de Vichy avait fait savoir aux Allemands que les aspirants ne devaient pas être considérés comme officiers, bien qu'ayant commandé une section. Et donc, tous les aspirants ont été renvoyés dans un camp de simples soldats dans la même région. C'était un camp dont dépendaient 60 000 prisonniers français, dont la plupart étaient employés dans les fermes et les entreprises allemandes, où ils relayaient les militaires allemands mobilisés. Et en arrivant dans ce camp, le hasard fait que je tombe sur un de mes amis d'enfance. Mais vraiment, un de ces hasards extraordinaires, au fond de la Poméranie, rencontrer un ami d'enfance. Je lui dis, Claude, je vais m'évader, tu viens avec moi. Il me répond, tu galèges, à Noël, on sera à la maison. Il est resté 5 ans derrière les barbelés. Donc, je me suis appliqué à chercher les moyens de m'évader. Ce qui n'était pas facile, mais moins difficile que dans le camp d'officier, car il y avait dans ce camp des échanges avec l'extérieur. Il y avait surtout des Polonais qui étaient des travailleurs qui étaient autorisés à aller travailler en ville. Il y avait un grand P peint sur le manteau, sur la capote, un brassard, une carte d'identité, et chaque jour, à peu près 150, qui chaque jour allaient travailler et revenaient coucher au camp. Et j'ai réussi, grâce à certains de ces Polonais, à obtenir qu'on me donne un brassard. J'ai réussi à me fabriquer... D'abord, j'ai trouvé un partenaire d'évasion. Alors qu'encore une fois, l'espoir entretenu par les Allemands était qu'on serait à Noël à la maison. Et puis donc les vêtements, toute une histoire pour arriver à se fabriquer des vêtements civils ou à transformer les vêtements militaires pour qu'ils puissent avoir l'air de vêtements civils. Et grâce aux Polonais, j'ai pu obtenir donc un brassard. L'un d'eux m'a prêté son laissez-passer, sa carte d'identité. Et il se trouvait qu'il y avait dans le camp un dessinateur fort français qui était un faussaire et qui était un très bon dessinateur, qui m'a fait laisser passer avec donc l'aigle allemand, le timbre allemand et le 4 janvier 1941 avec mon camarade d'évasion, vêtu plus ou moins en civil, une valise à la main, un brassard au bras. Il était 5 heures du soir, il faisait nuit, un froid de loup, Poméranie, au moins 10 degrés au-dessous de zéro, beaucoup de neige. Nous nous sommes présentés à la première entrée du camp. On a montré à distance nos cartes d'identité. On a fait Heil Hitler, puis deuxième entrée du camp. Et on est allé à la gare. Par les Polonais, j'avais pu me procurer un horaire des chemins de fer. Et nous avons pris un train. Quelle direction ? La direction normale, ça aurait été d'essayer de regagner la France. Mais il nous avait semblé que la France était peu accessible, car passer le Rhin était impossible. Nous savions que le seul passage de train était à quai, il était très très sérieusement gardé. Passer le Rhin à la nage en plein hiver, pas question. Donc il fallait passer par la Rhénanie, la Belgique, et ensuite les lignes de démarcation et frontières successives pour rallier la France, qui faisait plus de 1200 km et trois lignes de démarcation à franchir. La Lituanie était seulement à 425 km. Et la Lituanie, nous savions qu'elle avait été occupée par les Russes en juin 40, au lendemain de la défaite allemande. Les Russes avaient occupé les pays baltes, et je pensais qu'il y avait encore un consul de France à Kaunas. Et donc nous avions décidé de nous orienter vers l'est à petite vitesse par des trains, en évitant les rapides. Nous sommes donc dirigés vers l'Est avec beaucoup d'émotions, naturellement, en cours de route, toutes celles qu'on peut avoir. Nous avons passé le dimanche à Königsberg. Il faisait un froid minéral, la ville était vide. Il fallait passer la journée à Königsberg. Donc, nous avons passé la matinée dans un temple protestant. L'après-midi dans un cinéma, on a vu deux fois le même film. Il faisait chaud au moins. Et pour la première fois, alors nous avons vu cette chose extraordinaire, le maréchal, aux actualités, le maréchal Pétain, et la foule acclamant le maréchal Pétain. Et puis, dans la soirée, nous avons repris le train à 7 heures du soir, nous avons repris le train vers l'est jusqu'à proximité de la frontière lituanienne, et il a fallu passer alors la frontière lituanienne, traversée à la boussole, dans la neige, avec les alertes données, les chiens n'ont pas été lâchés, les réseaux de barbelés à franchir sur la glace, enfin nous étions en lambeaux, on a marché toute la nuit à la boussole dans cette neige durcie, et le lendemain, vers 7 heures du matin, nous sommes arrivés à proximité d'un village. Il y avait un cimetière en dehors du village. On est entré dans le village. J'ai balayé la neige sur une tombe et j'ai vu que les inscriptions n'étaient plus en allemand. Nous nous étions évadés. On s'est embrassés. Et puis nous sommes partis sur la route vers l'est en direction de Kaunas. À 10 km à peu près de marche, sur cette route verglacée où vraiment on avait peine à marcher, une troïka, c'est-à-dire un traîneau traîné par des chevaux et chargé de soldats rouges, nous a dépassés, s'est arrêté devant nous. Les soldats nous ont braqués, comme on dit aujourd'hui. on a levé les bras, et ils nous ont embarqués, couchés sur le traîneau, sur le ventre, le nez au-dessus de la neige, à l'arrière du traîneau, et direction la plus proche localité. Et c'est ainsi que, sortant de captivité allemande, nous sommes trouvés dans l'antichambre du goulag, où nous sommes restés 8 mois. Car les soviétiques avaient l'espionnite, se méfiaient à juste titre des Allemands, le passage illégal de la frontière était sanctionné de 4 ans de camp, et nous nous sommes trouvés de surcroît pris dans ce que l'on appelait la découlakisation, c'est-à-dire la soviétisation des pays baltes, où les soviétiques emprisonnaient toute la bourgeoisie, les paysans riches et tous les suspects, et les expédiaient au Kazakhstan et en Sibérie. Et donc ça a été à partir de ce moment-là, l'antichambre du goulag. C'est une expérience vraiment tout à fait extraordinaire. La prison centrale de Kaunas, où on était entassés, 36 par chambrée, couchant par terre sur le plancher les uns après les autres, à côté des autres, si serrés que lorsque l'un voulait se tourner la nuit en dormant, tout le rang était réveillé, dans une saleté affreuse, une prison tsariste, une saleté affreuse. Et alors, il y avait une chose incroyable, il y avait, si j'ose dire, c'est des prisons d'hommes, une tinette à urine qui était haute comme ça. Et autour de cette tinette, il y a une chose extraordinaire, j'ai jamais vu ça. Dans un cercle de 70 cm, il y avait des puces qui sautaient. J'avais vu ça. Et puis, nous sommes restés un certain temps à Kaunas. Et un soir, nous avons appris que nous allions déménager, qu'on allait nous emmener ailleurs. On nous amenait sous la douche, et en même temps que nous, il y avait un syndicaliste allemand avec qui, en tenue d'Adam, nous avons parlé sous la douche. Et les gardiens de prison qui étaient là lui ont dit à cet Allemand, est-ce que vous savez où on vous emmène demain? Il dit non. Alors, est-ce que c'est à Moscou ou est-ce qu'on vous rend à Hitler? Et alors j'ai vu cet Allemand qui ne comprenait pas, c'est un communiste allemand qui avait franchi la frontière pour se réfugier en Union soviétique. Il ne comprenait pas. Et les gardiens de prison expliquent, oui, parce qu'il y a 3 semaines, on a renvoyé un contingent de communistes allemands à Hitler, et j'ai vu cet Allemand s'effondrer absolument, incompréhensible. Non, il n'a pas été envoyé, il n'a pas été rendu à Hitler, il a été réexpédié comme nous à Moscou. Et donc ce fut le voyage vers Moscou. Et là, ça a été vraiment pour nous une découverte tout à fait extraordinaire, car ce voyage pour Moscou s'est fait en wagon cellulaire. Moi, je ne savais pas, et je crois qu'on ne sait pas encore en France aujourd'hui, que les grands transports soviétiques de déportation se faisaient dans des trains cellulaires. Trains cellulaires, c'est-à-dire des trains entiers composés uniquement de wagons, donc wagons à couloir, dont chaque compartiment était une cellule grillagée avec un volet qui se fermait du côté couloir. Les compartiments, les trains russes sont plus larges, le gabarit n'est pas le même, sont plus larges que les trains européens occidentaux. Ils sont plus hauts aussi, et à la place où il y a les porte-bagages dans nos compartiments, il y avait une planche de chaque côté avec une troisième planche qui pouvait se refermer, ce qui pouvait faire un plancher intermédiaire. de sorte qu'ils entassaient, on entassait jusqu'à 20 personnes dans un compartiment avec du pain et du lard, ou du pain et du sucre, vous ne connaissez pas ça, du sucre qu'on cassait au couteau, au marteau, du sucre en pain de sucre, pour 5 jours. Et puis les trains partaient à petite vitesse, et quand je suis arrivé à la gare de Moscou, dans la gare de marchandises Moscou-Ouest, j'ai eu la surprise vraiment de voir, descendant de notre train, 3 trains cellulaires qui étaient rangés déjà les uns à côté des autres. Et puis la discipline du NKVD, ce qu'on appelle aujourd'hui le KGB, était très très rude. C'est-à-dire que on nous a fait coucher sur le quai dans la neige avec baïonnette au-dessus du dos, jusqu'à ce qu'on vienne nous prendre en charge pour nous mener en camion cellulaire jusqu'à la prison Loubianka, la prison centrale de Moscou. Enfin, je passe sur les détails du séjour en Union soviétique, qui ont été quelquefois affreux, très très durs vraiment au point de vue disciplinaire, confort, inconfort, rudesse, violence. Mais assez rapidement, les évadés français, car il n'y avait pas que nous, les évadés français ont été reconnus comme constituant un cas et ont été regroupés. Et donc ça a été une grande joie qu'à la prison Loubianka, à la prison Boutyrki, on m'ouvre une porte et j'entre dans une cellule. Il y avait une vingtaine de soldats français en uniforme, ce qui était tout de même un énorme soulagement. Donc à partir de ce moment-là, ça n'a plus été une aventure individuelle, ça a été une aventure collective des évadés français en Union soviétique, qui au total ont été 218 soldats français qui se sont très mal conduits parce qu'ils ne toléraient pas, ils ne supportaient pas d'être tenus au secret, car nous avons toujours été au secret, et nos familles nous ont considérés comme disparus. Au secret, dans des conditions quelquefois dures, quelquefois confortables, ce qui nous a amené à faire pratiquer une insubordination incompréhensible pour les soviétiques, qui les désarçonnait. 2 grèves de la faim à Moscou, dont l'une brisée, les premiers d'entre nous nourris par le nez, une sonde dans le nez. Tunnel dans le camp où on nous avait ensuite internés, ce qui en cours de route nous a permis d'ailleurs de découvrir qu'il y avait des Polonais qui avaient un sort encore pire que le nôtre, car nous avons été internés pendant plusieurs mois dans un camp qui s'appelait Kozielsk, dans un monastère qui avait été un haut lieu de la spiritualité russe, où Gogol et Dostoïevski avaient fait des retraites, et où séjournaient des officiers polonais où avaient surtout avant nous séjourné 2500 officiers polonais massacrés à Katyn. Nous ne le savions pas, mais nous savions qu'il y avait ces Polonais dans notre voisinage. Et je ne sais pas comment nous avons su rapidement que beaucoup de Polonais avaient disparu. Enfin, je passe sur les suites de ce séjour soviétique pittoresque qui progressivement a fait de nous des gaullistes. Surtout à partir du moment où la Russie a été agressé par les Allemands en juin 1941, nous avons considéré qu'il n'y avait plus de raison que nous soyons maintenus en prison, que nous étions maintenant des alliés, et donc un bon nombre d'entre nous se sont portés volontaires pour rallier les forces françaises libres. Pas la totalité, mais un bon nombre. Et finalement, le 31 août 1941, nous avons été transportés en wagon plombé sur le port de la ville d'Arkhangelsk, au bord de la mer Blanche, tout au nord de la Russie. On nous a embarqués sur un cargo, un petit cargo au ras de l'eau. Et sur ce cargo, nous étions entourés par des soldats rouges avec des fusils mitrailleurs armés sur le pont. C'est vous dire l'obsession d'espionnite, comme si l'un d'entre nous allait se jeter à l'eau, allait essayer de s'évader au milieu de la mer Blanche. Et donc on est parti sur ce cargo au milieu de la mer Blanche, dans un brouillard blanc à couper au couteau. On a navigué une heure et puis on est arrivé auprès d'une vue dans le brouillard, une espèce d'énorme masse sombre. C'était un transport de troupes canadien, première liaison entre les Britanniques et les Soviétiques. Un transport de troupes canadien qui devait nous embarquer, sur lequel nous allions être livrés aux Occidentaux, sans avoir été donc libre une seconde en Union soviétique. On a accosté contre cet énorme bateau qui était un paquebot et à toutes les rambardes, il était énorme au-dessus de nous, n'est-ce pas, nous étions ras de l'eau, énorme, avec à toutes les rambardes, on voyait des soldats britanniques, des soldats canadiens en uniforme qui nous lançaient des cigarettes. Et quand le premier d'entre nous a franchi la passerelle qu'on avait jetée entre les deux, tout ce paquebot canadien a entonné la Marseillaise au milieu de la mer Blanche, ce qui est vraiment quelque chose, enfin un souvenir que je ne peux jamais raconter sans émotion. Et donc c'est une toute nouvelle époque qui a commencé pour nous. C'était la rentrée dans la guerre, qu'on a commencé par un raid au Spitzberg avec les Canadiens, et nous sommes arrivés à Londres. Ça a été un petit événement, cette arrivée d'évadés français qui avaient eu ce périple vraiment singulier et qui venaient témoigner, ce qui était un peu excessif, que les prisonniers de guerre étaient tous gaullistes. Peu de temps, donc j'ai signé mon engagement, uniforme anglais, le battle dress, le camp de Camberley, le camp français. Et j'ai découvert ce que c'était que la France libre. Je le savais très très vaguement. On savait que De Gaulle, qu'il y avait un De Gaulle à Londres et une France libre à Londres, mais qu'est-ce qu'elle représentait, quelle en était l'importance, on ne sait rien du tout. On était encore convaincus que le maréchal Pétain était le premier résistant de France. Nous étions à la fois pétainistes et gaullistes. Enfin, on ne peut pas se représenter ce qui était pour certains la confusion des esprits à cette époque. Et donc, première rencontre avec De Gaulle. Ça se passe un mois plus tard, un mois après l'arrivée. Il fait organiser une prise d'armes pour nous remettre la médaille des évadés. Et donc, dans le camp de Camberley, nous sommes là, 186 évadés, en carré, ces simples soldats, le fusil sur l'épaule. Au milieu, il y a De Gaulle, l'amiral Muselier, un officier qui a dans un casque des médailles. Et De Gaulle, très grand, nous fait un discours. Et ce discours, moi je ne m'attendais absolument pas à un discours pareil de la part d'un général. J'étais plutôt méfiant à l'égard des généraux dont j'avais eu l'idée ou dont j'avais eu le contact. Et il nous fait un discours en lui disant « ce que vous avez fait, ce que vous savez, bon d'accord, c'était normal hein. ». Alors que certains avaient fait des évasions incroyables, sans savoir l'allemand, 3 semaines à pied dans la neige, dans pays inconnu. Donc ce que vous avez fait, c'est le règlement. Et puis maintenant, vous êtes responsable de la France. Pof. mon voisin dans les rangs me pousse du coude et me dit « c'est Charles XI ». C'est-à-dire que le personnage était souverain. C'était vraiment tout à fait stupéfiant. Je dois dire que Français libre, nous n'étions pas très nombreux. Je n'imaginais pas que 14 officiers aspirants ralliant la France libre soient considérés comme et 170 hommes soient considérés comme un renfort important. Ça a été le cas pourtant, parce que cette France libre était bien peu de choses, bien peu de choses. Il faut se souvenir que lorsque l'union entre les forces du général de Gaulle et les forces du général Giraud de l'armée d'Afrique l'union a été faite dans l'été 1943, le corps de bataille français libre représentait, le corps de bataille terrestre français libre représentait 13 000 hommes. C'était très peu de choses. Entre des millions d'hommes se battaient. Mais de ce jour, nous avons eu l'impression que nous étions responsables de la France. Ce sentiment de responsabilité de la France et du monde, je le dois pour beaucoup à cette qui m'a poursuivi toute ma vie. Je dois dire que je le dois pour beaucoup à cette première rencontre avec le général de Gaulle. Et donc ma carrière de Français libre a commencé là, et au printemps suivant, j'ai été affecté non pas à une unité combattante, comme la plupart de mes camarades, mais au commissariat national à l'intérieur. Le commissariat national à l'intérieur, qu'est-ce que c'était? Le général de Gaulle avait constitué qui, au départ, n'avait eu que le souci de former quelques unités combattantes pour que passe un seul jour la France ne soit absente des combats. Le général de Gaulle avait créé en septembre 1941 un comité national français qui était une espèce d'amorce de gouvernement. C'était le début de la reconstruction de l'État. Et un des exploits à l'actif de De Gaulle, c'est tout à fait incroyable, c'est s'être appliqué à reconstruire toutes les formes d'un État français hors de France, d'un État français régi par les lois de la légitime République, un État de droit, et qui puisse faire pièce face au gouvernement de Vichy. Il avait créé un commissariat national à l'intérieur pour s'occuper des relations politiques avec la résistance française et avec l'opinion publique française. Il faut vous expliquer que depuis 1940, le général de Gaulle avait créé un deuxième bureau qui envoyait des agents en France, essentiellement pour apporter des renseignements militaires aux Britanniques. Et ainsi, très lentement, très très difficilement, un certain nombre de réseaux s'étaient constitués, réseaux pilotés de Londres, dont le rôle était essentiellement, donc je le répète, d'apporter des renseignements militaires. De surcroît, quelques sabotages avaient été organisés à partir de Londres. Le premier sabotage important avait été la destruction de la centrale électrique de la base de sous-marins allemande de Pessac à côté de Bordeaux. Seule opération importante de 1941. Et au printemps 1942, une équipe de mes camarades parachutée en France a fait sauter la grande antenne de radio d'Alloui, pas très loin d'ici, ce qui a permis pendant 8 jours aux Français de France d'écouter les émissions de la BBC sans brouillage, ce qui était tout à fait un succès. L'organisme qui envoyait ses agents en France s'appelait le Bureau central de renseignement et d'action militaire. Il avait constitué donc une section de renseignement, une section d'action qui ne faisait pas grand-chose encore, c'est quelques sabotages, une section d'évasion. Et cet organisme, qui à la fin de 1941 avait envoyé en France 29 agents dont la moitié avait été arrêtée et avait 12 postes clandestins, 12 postes émetteurs récepteurs clandestins. Ce service secret d'action en France recevait ses directives politiques de l'état-major particulier du général de Gaulle et ses directives militaires du cabinet du général de Gaulle et ses directives politiques du commissariat à l'intérieur. Donc le commissariat à l'intérieur devait essayer de prendre des contacts politiques en France, diriger les mouvements, donner des directives à cet homme mystérieux qu'on appelait Rex, dont je ne savais que le surnom, et essayer d'agir par la radio, par la BBC, sur l'opinion française. Et c'est pour moi une aventure alors tout à fait extraordinaire qui a commencé à 24 ou 25 ans, donc de me trouver au cœur de la relation politique avec la résistance française, au contact avec les décideurs. La première chose qu'on m'a demandé de faire était de constituer une documentation sur la France. Je ne connaissais rien en matière de documentation, donc j'ai improvisé. Et puis en second lieu, on m'a dit, le général de Gaulle a décidé qu'il fallait constituer un centre d'écoute des émissions radiophoniques faites en France, de Radio Vichy et Radio Paris. C'est absolument indispensable pour savoir ce qui se passe en France et puis pour pouvoir répondre aux émissions du tac au tac. Je ne savais pas l'anglais, ou je baragouinais l'anglais. Je ne connaissais rien à la question de radio, mais la France libre, il fallait improviser. C'est la France libre, elle est constituée de briques et de brocs. Moyenne d'âge, 23 ans. Donc, avec l'assistance d'une femme belge de naissance, mais qui était engagée dans les forces françaises et qui était bilingue, j'ai monté ce centre d'écoute. Nous avons monté ce centre d'écoute et on a acheté des appareils, on a recruté des jeunes filles pour retranscrire les textes enregistrés, les textes des émissions enregistrées. Enfin, au mois de juin 1942, ça fonctionnait suffisamment pour que le 22 juin, la radio de Vichy a annoncé que Pierre Laval parlerait le soir, ferait un important discours à 8 heures. À 8 heures du soir, je suis monté au centre d'écoute avec Maurice Schumann. Maurice Schumann était le porte-parole du général de Gaulle. Et nous avons entendu le discours de Pierre Laval, où il a proféré cette phrase terrible « Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans cela, le bolchevisme couvrirait l'Europe. » Et cette écoute a permis au porte-parole Maurice Schumann de venir à la BBC une heure plus tard déclarer « Monsieur Pierre Laval s'est mis en dehors de la nation ». Donc cette première réussite était quelque chose de très flatteur pour moi qui avait été associé à tout ça. et puis extrêmement efficace. Et ce service d'écoute a proliféré puisqu'il a permis ensuite d'écouter les émissions. Il s'est développé, 60 personnes, permis d'écouter les émissions d'Alger, de Brazzaville, de Moscou, en français, etc. Instrument vraiment très, très important qui faisait deux livraisons par jour de bulletins. Et puis, là-dessus, changement. Oui, là-dessus, je me suis trouvé progressivement. Oui, là-dessus, j'ai été nommé. De Gaulle a décidé de créer un comité exécutif de propagande pour essayer d'orienter les émissions de radio vers la France dans un sens favorable à la France libre. La BBC était l'instrument le plus puissant dont on disposait à Londres pour communiquer avec la France, à sens unique, bien sûr. Il y avait des émissions assez nombreuses en français dans la journée, de 10 minutes ou un quart d'heure, des émissions de nouvelles, et puis une émission de 3 quarts d'heure le soir, qui était très écoutée en France, mais dans cette émission de 3 quarts d'heure, il y avait 10 minutes de nouvelles, les nouvelles étaient rédigées par les Anglais et traduites en français, il y avait 5 minutes qui appartenait en propre, qui avait été donné en propre au général de Gaulle. Le général de Gaulle ne disposait donc que de 5 minutes pour que son porte-parole ou ses représentants ou lui-même s'exprime vers la France. Et une demi-heure d'une émission remarquable, émaillée de slogans, de chansons, Radio Paris est allemand. Mais cette émission qui était faite par des Français l'était par des Français qui étaient sous contrat de la BBC, qui recevaient leurs directives des Anglais. Donc l'obsession de Gaulle, qui voulait maintenir, affirmer la souveraineté française, c'était d'acquérir une influence de plus en plus importante sur les émissions vers la France, de faire entendre sa voix, faire comprendre aux Français. Or, il est certain que les Français et les Anglais n'étaient pas toujours d'accord sur ce qu'il fallait dire aux Français. Un des points de divergence en particulier était que les Anglais ne voulaient absolument pas qu'on dise du mal du maréchal Pétain, alors que de Gaulle voulait absolument qu'on fasse comprendre aux Français que le maréchal Pétain était le premier responsable de leur malheur, puisque c'était sous son couvert que se faisaient tous les actes de collaboration et tous les abus dont les Français, certains Français et les Allemands se rendaient coupables. C'est un exemple seulement. Donc, j'ai été propulsé secrétaire du comité exécutif de propagande. C'est-à-dire que je me suis trouvé, à partir de ce moment-là, au cœur de l'action politique de la propagande vers la France. Et puis, en juillet 1942, est arrivé un télégramme d'un personnage qui signait Rex, demandant qu'on lui envoie tous les mois un courrier documentaire expliquant ce qu'était l'activité de la France libre et ce qu'étaient les grands problèmes qui se posaient aux Anglais. Et il m'est échu vraiment cette mission incroyable, je répète, j'avais 25 ans, que l'on me charge de faire les courriers mensuels, de faire les courriers mensuels qui seraient envoyés tous les mois parachutés à destination de Rex. Et j'ai su seulement après la guerre que Rex s'appelait Jean Moulin. Je savais en tout cas que c'était un agent très important, le représentant clandestin. Et donc, il m'a fallu constituer une équipe pour, tous les mois, rédiger ces courriers destinés à la France. Et puis, 3 fois par semaine, j'étais le secrétaire du comité qui décidait des orientations de la politique française sur la BBC. Au cours de cette période, j'ai eu l'occasion de voir de Gaulle il n'était pas accessible, c'était pas encore celui qu'on a connu, président de la République, difficilement accessible à partir de 1958. Il était plus proche, souvent très raide, drapé dans son armure, invisible. Mais en une occasion, j'ai fait savoir que j'avais des choses à lui dire parce que je trouvais que les choses se passaient pas bien entre le commissariat à l'intérieur et le Becerra. Et il m'a invité à dîner en tête à tête. Et alors j'ai eu cette surprise incroyable, le cœur battant naturellement, de me trouver face à un général affable, souriant, et me racontant à moi, sous-lieutenant, ce qu'il avait voulu faire depuis 1940. Et puis le lendemain, naturellement, on le retrouvait raide, ne parlant pas. On racontait, enfin, pour dire cette raideur et combien il était ailleurs, on racontait que tous les jours, il venait à son quartier général. Il montait par l'ascenseur, il descendait à pied. Il montait par l'ascenseur et il y avait un soldat qui pilotait l'ascenseur. Et jamais le général de Gaulle n'avait adressé la parole à ce soldat. Et un jour, un des aides de camp du général de Gaulle lui dit « Mon général, le soldat a reçu des mauvaises nouvelles de sa famille, vous pourriez lui dire un mot ?» Et le général riposte à son aide de camp « On ne me donne pas des leçons ». Et il prend l'ascenseur là-dessus, il dit pas un mot au liftier. Et puis le lendemain, il reprend l'ascenseur et il dit au liftier, est-ce que vous avez des nouvelles de votre famille ? Et le liftier est naturellement très ému. Et le général Do n'écoute pas la réponse que lui fait le... Mais il avait pris acte. Donc il était très loin, mais capable d'être, encore une fois, très affable, et notamment dans les déjeuners, il invitait souvent à déjeuner les officiers pour avoir le contact avec eux. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de participer à ces déjeuners. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai vécu de la vie d'un service qui n'était pas un service secret, mais qui était un service étroitement lié à la vie de la résistance, interface entre l'action politique londonienne de la France libre et la résistance française. C'est-à-dire que nous avons vécu au rythme des lunaisons, puisque les parachutages et atterrissages ne se faisaient que pendant les phases de pleine lune, sauf tout à fait à la fin. Et donc, dans la phase de pleine lune, on voyait arriver les agents qui venaient de France ou les chefs des réseaux de résistance. On voyait partir certains d'entre nous qui étaient volontaires pour des missions en France et dont beaucoup étaient nos amis et dont beaucoup ne sont pas revenus. C'était au rythme des lunaisons, donc, que je faisais partir ces courriers qui étaient envoyés à la résistance. C'est au rythme des lunaisons que j'ai eu l'occasion donc de vivre, de connaître tous les chefs de la résistance, tous les chefs des mouvements de résistance, pas les chefs des réseaux de renseignement, les chefs des mouvements de résistance. Et il faut rappeler que ces liaisons très difficiles au départ entre l'Angleterre et la France sont devenues de plus en plus fréquentes à partir de 1942. Surtout en 1943-1944. Au total, il faut le rappeler, parce que ce sont des chiffres qu'on ne sait pas, il y a eu à peu près 1800 1800 agents ou messagers qui ont été envoyés dans, soit par les Français, soit par les Anglais ou les Américains d'Angleterre en France, 1800, ce qui est tout de même un chiffre formidable. On se sent parachuté. Il y a eu, si je me souviens bien, 217 atterrissages clandestins réussis qui ont ramené quelque chose comme 600 personnes de France en Angleterre, ont déposé 450 agents en France. À quoi s'ajoute dans l'été 42 les débarquements clandestins par bateau qui ont pu se faire dans les calanques de Cassis et qui ont porté sur à peu près 300 départs et 150 arrivées. Donc des contacts de plus en plus fréquents avec ces chefs de la résistance, des envois de plus fréquents d'agents, de messagers. Et donc j'ai eu la chance incroyable vraiment d'être auprès de centres décideurs qui ont eu à se prononcer sur toute une série de questions dramatiques. La première de ces questions dramatiques a été que faire au lendemain de l'arrestation de Jean Moulin. J'étais dans le bureau de Georges Boris, directeur général du commissariat à l'intérieur, le 23 juin 43, je crois. Je descends chez lui, il me dit « Rex a été arrêté ». Et donc j'ai été témoin des décisions qu'il fallait prendre, puisque l'arrestation de Jean Moulin, à quoi s'ajoutait l'arrestation de tout son état-major ? Les Anglais ont considéré que l'arrestation de Jean Moulin et de son état-major signifiait la perte de 80% du potentiel militaire de la résistance française. Et ils ont eu à ce moment-là la tentation de prendre en main directement la direction militaire de la résistance française. Donc que faire, comment organiser la suite ? Jean Moulin avait tout centralisé sous son autorité et a été mis en place à partir de ce moment-là une structure nouvelle, c'est-à-dire on ne le parle pas, on ne le dit pas, une structure plaquée sur la résistance de 12 délégués militaires régionaux, de 12 officiers militaires d'opération qui s'occupaient, eux, des atterrissages en France, des atterrissages et parachutages. Cette double structure, donc, était l'interface entre Londres, plateforme extérieure de la résistance, et l'intérieur. Et c'était eux qui avaient la radio, chacun avait un poste émetteur, récepteur de radio vers Londres. Chacun avait la possibilité de distribuer l'argent, chacun avait la possibilité de demander des armes. Et donc cette double structure mise en place sur la France a été quelque chose dont, je le répète, on ne parle pas, mais qui a été très très capital pour la préparation de ce qu'on appelait l'insurrection nationale. Des décisions à prendre en ce qui concerne les bombardements. Est-ce qu'il était sage et tolérable que les Anglais, et surtout les Américains, bombardent la France aussi brutalement, dans le cas des Américains, causant autant de victimes, alors que nous pensions que les sabotages de la résistance pouvaient faire aussi bien. Et donc c'était avec les Anglais une dispute constante. Et problème du financement. La résistance avait besoin d'argent. Où trouver cet argent ? Dans la première phase, ce sont les Anglais qui, jusqu'à juin 1943, et qui ont financé. À partir de juin-juillet 1943, Churchill a décidé que De Gaulle, ayant constitué un gouvernement à Alger, le Comité de la Libération Nationale, les Français n'avaient qu'à se débrouiller pour leur financement. Les crédits envoyés, ce qu'on envoyait en France comme argent, il fallait que ce soit en billets français, à la rigueur en dollars, mais enfin pour l'essentiel en billets français. Or, des billets français dans le monde, il n'y en avait pas tellement. Donc, il s'est agi d'organiser le raclage de tiroirs en Algérie, en Tunisie, au Maroc, puis de faire un échange des billets en Corse pour à la fois faire rendre gorge aux trafiquants, mais aussi pour récupérer des billets qu'on pourrait envoyer en France. Et puis, ce n'est pas suffisant, parce qu'à mesure que la résistance se développait, que les maquis s'amplifiaient, il fallait des sommes de plus en plus importantes. C'était des centaines de millions. Des centaines de millions qu'on envoyait en France en 1944. Le problème qui se passait à nous, le problème des maquis. Vous savez qu'à partir du moment où le gouvernement de Vichy a accepté de créer le service du travail obligatoire, le STO, la fuite du maquis s'est amplifiée, la fuite vers les maquis s'est amplifiée. Dès l'été 1943, on estimait que 60 000 jeunes, qu'il y avait 60 000 jeunes réfractaires en France qui avaient refusé d'aller servir pour le travail obligatoire en Allemagne. Ces jeunes réfractaires n'étaient pas forcément des combattants. Certains seulement l'étaient. Certains réclamaient des armes. Ils s'étaient traqués par la police et par les Allemands. S'est posée de plus en plus la question de l'action immédiate. Est-ce qu'il fallait les encourager à combattre, à se battre contre les Allemands? Est-ce que le risque de représailles n'était pas trop important? Les Anglais étaient catégoriquement opposés au développement d'actions armées en France. Il pensait que les actions armées devaient être réservées pour la période du débarquement. Mais d'un autre côté, ils avaient besoin de se défendre. Il fallait leur en donner les moyens. On a pris conscience de surcroît que pour la période du débarquement, ces maquisards seraient les combattants, que c'est eux. L'armée secrète, c'était finalement peu de choses. Ceux-là qui combattraient, dont on pouvait espérer qu'ils combattent en France, qu'ils apportent une contribution importante à l'action des forces du débarquement, c'était bien ces maquisards. On peut estimer qu'au printemps 1944, les crédits envoyés en France permettaient de faire vivre à peu près 25 000 maquisards, à raison de, en moyenne, 750 à 1000 francs par tête. Naturellement, ils n'étaient pas payés, mais il s'agissait de les nourrir, de soutenir les paysans qui les ravitaillaient. Pour la dernière phase, enfin, s'est posée une question très très grave. Je m'arrêterai là parce que je crois dépasser mon temps de parole déjà. S'est posée une question très très grave. De Gaulle avait déclaré « La libération nationale sera inséparable de l'insurrection nationale ». C'est-à-dire l'idée sur laquelle nous vivions, c'était que au moment du débarquement en France, il fallait que les Français se soulèvent, et nous imaginions que, dans une illusion lyrique, qu'au jour du débarquement, des milliers de Français prendraient les armes et permettraient la libération. Or, les études d'état-major qui ont été faites côté français libre en février 1944 ont révélé quelque chose à quoi on ne s'attendait pas du tout, à savoir que le débarquement en Normandie, proprement dit, demanderait une quinzaine de jours, que la consolidation de la tête de pont en Normandie pouvait demander de 2 à 3 mois, et que les combats de libération de la France pouvaient s'échelonner sur 4 à 6 mois. C'est-à-dire que si l'insurrection nationale à laquelle nous étions tellement attachés, si nécessaire pour que la France apporte cette contribution à sa libération, pour que dans la suite les générations se souviennent que les Français avaient combattu et s'étaient libérés eux-mêmes, il ne fallait pas qu'ils se soulèvent au jour J, sous peine d'être exterminés et de soumettre la population à des représailles terribles. Il fallait que l'insurrection nationale soit quelque chose d'échelonné dans le temps, selon, en fonction du progrès du débarquement, des forces de débarquement, et avec des différences selon les régions. Mais d'une part, c'était pas acquis. D'autre part, en France, ni les communistes ni la gauche résistante n'avaient cette vision. Ils pensaient, au contraire, que c'était le jour J qui allait tout déclencher. Comment faire en sorte, donc, de faire admettre que cette insurrection nationale devait obéir aux exigences de la stratégie alliée ? J'ai participé aux discussions qui ont eu lieu avec les... Enfin, j'ai eu ce privilège tout à fait incroyable de participer aux discussions avec les Anglais, les Canadiens et les Américains à ces sujets, et puis avec les représentants communistes à Londres. Et les uns et les autres ont fini par, on a fini par tomber d'accord. Les communistes ont accepté que le jour J ne soit pas le signal de l'insurrection nationale. Et c'était Waldeck Rocher, représentant du Parti communiste à Londres. Et puis, on a signé un accord avec les Anglais, dont j'ai rédigé le texte, au terme duquel, dans la nuit du débarquement, on lancerait des messages personnels. Vous savez que les messages personnels, ces phrases chiffrées, poétiques que diffusait la BBC, étaient en réalité des ordres donnés, des ordres d'opération donnés à la résistance. Il avait été convenu donc que les messages personnels, les ordres donnés pour la nuit du débarquement seraient uniquement des ordres de sabotage des voies ferrées et des lignes de communication téléphoniques, télégraphiques, allant vers la Normandie, et un peu de guérilla pour empêcher retarder les renforts allemands vers la Normandie. Et puis, le jour du débarquement, 6 juin, arrive. Et dans la nuit, la BBC diffuse des consignes et des messages donnant l'ordre à toutes les formations armées de France, dans toutes les régions, de passer immédiatement à toutes les formes d'action. L'enthousiasme du débarquement, d'une part, et ses messages personnels, d'autre part, ont fait qu'il y a eu un afflux massif vers les maquis, que toute une série de villes ont été occupées par des maquisards et des résistants qui ont brandi les drapeaux français et annoncé la libération. Ensuite de quoi, 10 jours après, les résistants n'avaient plus de munitions, les Allemands ont commencé des représailles terribles, et vous savez ce qu'ont été ces représailles sanglantes, dont la pire a été vers le Vercors, dont a été Oradour, et puis ensuite le Vercors. C'est seulement bien plus tard, c'est seulement dans les années 80 que j'ai appris pourquoi tomber d'accord avec les Anglais n'avait pas été respecté, pourquoi on avait donné ces consignes d'explosion immédiate. La responsabilité en venait au général Eisenhower. Jusque-là, il avait considéré que la résistance serait un plus, il n'y comptait pas. Il pensait que le débarquement en Normandie était quelque chose de très hasardeux, 50 chances sur 100 de réussite. Et informé deux ou trois jours avant le débarquement des possibilités de la résistance française, il avait estimé qu'il ne fallait négliger aucune chance, que si ça pouvait, en déclenchant des opérations sur tout le territoire, si ça pouvait désarçonner, déconcerter les Allemands, c'était une chance supplémentaire à ne pas manquer. Voilà donc comment les choses se sont passées. Vous savez ce qu'a été finalement la contribution de la résistance à notre libération. Elle a été considérable, elle a été une surprise énorme pour les Américains, et même si cet appoint n'a été qu'un appoint d'auxiliaire, il a été extrêmement précieux. Pour ma part, je souhaitais ne pas rester à Londres et être parachuté pour participer à tout ça. Et j'ai eu la malchance que je regrette encore aujourd'hui que le premier soir, le mauvais temps ait empêché le parachutage. Et je devais partir avec un officier anglais et un officier américain pour le maquis de l'Ain. Que le deuxième soir, l'officier anglais ne se soit pas présenté et la mission a été annulée. Je m'arrête là et je suis tout prêt à répondre à vos questions.
Donc je vais prendre la parole 2 minutes juste pour qu'on s'organise vis-à-vis des questions. Vous levez la main, je vous donne le micro, vous posez votre question.